France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
François Hollande, Angela Merkel et Matteo Renzi se sont vus encore cette semaine pour tenter de relancer l'Union européenne. L'idée des trois dirigeants qui préparent le sommet européen de la mi-septembre à Bratislava, c'est de relancer l'Europe, de lui redonner des projets, un futur, une consistance. Après le Brexit, qu'est-ce qu'on fait? Comment sortir de la sidération et du registre émotionnel dans les discours? Si pour l'instant les Européens semblent se payer de mots, que peuvent-ils faire pour retrouver un idéal commun et lutter contre les forces centrifuges qui, venues d'à peu près tous les coins de l'Europe, minent le projet? Où va l'Europe en cette rentrée 2016? On voit ça ce matin avec deux invités, Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors, et Keith Dixon, professeur émérite de civilisation anglaise à l'Université de Lyon 2. Partons du Brexit peut-être, Keith Dixon, avec le recul, comment est-ce que vous expliquez ce vote? On a beaucoup parlé de la question des migrants, de l'inquiétude face à l'immigration qui a beaucoup joué, c'est vrai, mais il y avait d'autres composantes, évidemment. C'était aussi une crise de l'Europe au Royaume-Uni, une crise dans le rapport britannique à l'Union.
Oui, je pense que on a peut-être un peu trop centré l'analyse de cette élection sur la question de la migration. C'est évident que cette question a été mise en avant par la campagne conservatrice menée par l'UKIP en particulier. Mais je pense que le résultat est plutôt une conjugaison de plusieurs mécontentements, parfois des mécontentements contradictoires, dont les partis politiques britanniques n'ont pas su, auxquels le parti politique britannique n'ont pas su répondre.
C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu finalement la campagne pour une autre Europe au Royaume-Uni, c'est ce que vous nous dites.
Il y avait bien une campagne, en particulier la campagne du Parti travailliste, prenant une autre Europe, affirmant qu'une autre Europe était possible, mais ce message a été largement inaudible, et c'est la question qu'il faut se poser, pourquoi, pendant la campagne référendaire britannique.
Corbyn y est quand même allé tout doucement sur la réforme de l'Europe et sur le maintien.
Oui, bien sûr, il est évident que l'Europe de Hollande, de Merkel et de Renzi ne fait pas rêver Jeremy Corbyn.
Est-ce que c'est ce qui nous...
Et les militants travaillistes qui sont derrière lui.
Yves Bertoncini, est-ce que c'est ce qui nous pend au nez dans les autres pays européens, une polarisation telle du débat qu'on n'entend plus les questions sur la réforme de l'Europe, qui est quand même nécessaire? On voit bien que l'Europe ne satisfait pas grand monde aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne.
Oui, mais je crois qu'il faut d'abord rendre à Shakespeare ce qui est à Shakespeare, si je puis dire. Les Britanniques sont entrés à reculons dans la communauté économique européenne. C'est si vrai que 2 ans à peine après leur adhésion, ils ont organisé déjà un premier référendum d'appartenance à l'initiative des travaillistes, qui étaient déjà un peu taraudés par cette question. C'est une sortie qui vient de loin. C'est presque une parenthèse qui se referme. L'Union européenne, pour les Britanniques, ça n'a jamais été une évidence.
L'UE a existé avant et elle existera après.
Alors ça, c'est le message subliminal des trois chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis à Ventotene ce lundi. C'est juste de rappeler effectivement qu'avec tout le respect qu'on doit aux Britanniques, la construction européenne a été lancée sans eux et que donc elle se poursuivra sans eux. Et puis autre chose. C'est une façon de dire qu'évidemment la Manche, c'est important, il va falloir se pencher sur le divorce, il va falloir essayer d'établir de nouvelles relations avec le Royaume-Uni, qui est un grand pays d'Europe avec lequel il faut qu'on ait de bonnes relations. Simplement, avant la Manche, il y a la Méditerranée. Et les défis que doivent affronter les Européens aujourd'hui, ils sont plutôt en Méditerranée. Ils sont des défis extérieurs, le chaos en Libye, la guerre en Syrie, le terrorisme islamiste, le défi migratoire. Je pense qu'avec un peu plus d'efforts, on regardera même le Pacifique, encore une autre mer. C'est le centre du monde désormais. Les Européens ne sont plus que 7% de la population mondiale, bientôt 6%. Et donc effectivement, la nécessité, j'allais dire, un peu de changer de focale, de regarder le monde davantage que regarder tout ce qui nous sépare les uns les autres en qu'européen.
En même temps, le Brexit révèle les faiblesses de l'Europe. C'est à la fois un avertissement et à la fois un révélateur.
Oui, absolument. Et de ce point de vue-là, c'est aussi un vote par procuration. C'est un vote extrêmement britannique. Et encore une fois, il ne faut pas passer trop vite sur l'exceptionnalité britannique, qui faisait d'ailleurs qu'ils avaient un statut à part d'ores et déjà au sein de l'Union européenne. Je crois d'ailleurs qu'ils retrouveront à l'extérieur un statut à part. qui a fait écho, ceci dit, sur différents enjeux, pas forcément l'enjeu de la libre circulation et des migrations, mais je dirais l'enjeu de la façon dont les Européens, les Britanniques en l'espèce, ont l'impression de maîtriser ou pas les choses du point de vue démocratique, le contrôle sur ce qui se passe à Bruxelles, mais plus profondément, je pense, il y a une crise d'identité des Européens. Les Européens ont été, et les Britanniques parmi eux, au centre du monde. Ils ne le sont plus. Il y a une crise identitaire des Européens. Je le disais, nous ne pesons que 7% de la population mondiale. Bientôt 6 quand les Britanniques nous auront quittés. Bientôt 5 en raison de notre déclin démographique relatif. Et nous nous demandons ce que nous allons peser dans ce monde et même dans notre voisinage, parce que nous ne sommes même pas capables de façonner notre voisinage et nous subissons ce qui s'y passe. Et
qu'est-ce qu'on peut attendre alors de ce sommet là à Bratislava qui va se tenir mi-septembre? On a bien vu cette semaine encore la rencontre des trois. Bon voilà, il y a du symbole, il y a des mots, mais il n'y a pas grand-chose derrière.
Peut-être deux choses. Une vision d'abord, mais sur deux points. Simplement dire ce qui nous unit. Nous sommes unis dans la diversité, ce que disent les traités européens. L'Europe est une fédération d'États-nations, comme le dit Jacques Delors, donc naturellement qu'il y a des spécificités, des identités nationales respectables, légitimes. Simplement, des choses nous unissent. Nous sommes des Européens dans la mondialisation. Déjà, insister sur le « nous », ce qui nous fait Européens. Être Européen, ce n'est pas être Américain, ce n'est pas être Chinois. Il y a un modèle social, économique, environnemental, démocratique qu'il faut d'abord promouvoir, défendre aussi dans la mondialisation. Et puis, deuxième chose, ce que nous pouvons faire ensemble. Les opinions publiques sont assez convaincues sur le principe que l'Union fait la force, face au changement climatique, face au terrorisme islamiste, face à Vladimir Poutine, face au chaos syrien, libyen. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, qu'il faut s'unir. Mais nul doute que beaucoup de défis qui nous assaillent désormais entre Européens doivent être pointés. Il ne faut pas nier les défis que révèle le référendum britannique, je le disais, la répartition des pouvoirs entre Bruxelles et les États-nations, la façon dont la libre circulation des personnes, qui est d'abord opportunité pour beaucoup d'Européens qui peuvent bouger, aller chercher du travail, peut aussi devenir une menace pour certains d'entre eux. Mais enfin, il y a quand même vraiment, de la part des chefs d'État et de gouvernement, la nécessité d'hausser un peu le niveau et de développer une vision à la hauteur de nos défis actuels comme Européens.
La libre circulation des personnes que vous mentionnez, Yves Bertoncini, elle est évidemment au cœur des négociations qui vont s'ouvrir dans le cadre de la concrétisation du Brexit. Keith Dixon, on voit bien que Theresa May commence un chemin de croix. Quel rapport vous allez pouvoir continuer à entretenir avec l'Europe? Quelle forme de partenariat à la norvégienne, par exemple?
Oui, bien sûr, c'est la première question à laquelle le gouvernement conservateur et Theresa May en première devraient répondre. Pour le moment, il semble qu'il y a une certaine incertitude au niveau gouvernemental. Est-ce que la Grande-Bretagne va solliciter un statut du type Canada, du type Norvège, accès au marché unique, mais en respectant un certain nombre de règles européennes, ou est-ce que le lien avec l'Europe sera beaucoup plus distant? Pour le moment, on ne le sait pas. On le sait d'autant moins que l'équipe qui aujourd'hui est constituée au niveau gouvernemental britannique pour décider de l'avenir de la sortie britannique est une équipe fortement hétérogène. Theresa May elle-même a fait campagne pour rester au sein de l'Europe. La personne David Davis, qui est responsable du nouveau département pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe, est quelqu'un qui a fait une campagne vigoureuse contre le maintien de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Donc, je pense qu'on rentre dans une période de forte incertitude. Je voudrais juste revenir deux secondes sur les Britanniques. Je pense qu'il faudrait éviter peut-être d'utiliser cette catégorie qui, en l'occurrence, n'a pas de sens pour ce qui concerne le référendum, puisque les Gallois et les Anglais ont voté en faveur de la sortie, mais les Écossais et les Irlandais du Nord ont voté plutôt fortement en faveur du maintien de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Donc il y a là une fracture politique et territoriale qui devient à mon avis, de plus en plus difficile à gérer.
C'est-à-dire qu'il y a une crise politique, vous en parliez tout à l'heure, Keith Dixon, une crise politique à l'intérieur des deux grands partis de la vie politique britannique. Il y a aussi une crise, effectivement, au sein du Royaume-Uni. Il y a le risque d'une cassure. Il y a le cas de l'Irlande du Nord, notamment, qui va être maintenant préoccupant. On a beaucoup parlé de l'Écosse, mais l'Irlande du Nord aussi.
Oui, je pense que c'est une des nouveautés de ce référendum, enfin des conséquences de ce référendum, avec l'éventualité de la création d'une frontière dure entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, tous les équilibres précaires qui ont été construits depuis la fin de la guerre civile en Irlande du Nord sont aujourd'hui mis en danger par le résultat du référendum. Donc on a une véritable crise constitutionnelle, territoriale, aujourd'hui au sein de la Grande-Bretagne.
En même temps, c'est pas le Brexit qui a fait cette crise, c'est peut-être la crise qui a provoqué le Brexit.
Non, tout à fait. Je pense que le Brexit a révélé un certain nombre de fractures préexistantes au sein de la société britannique. Mais il faut dire aussi que le résultat du référendum a fortement creusé ce qui était déjà une fracture. Je pense en particulier à l'Écosse où, de toute évidence, le Parti national écossais, largement majoritaire aujourd'hui au sein du Parlement écossais, pense fortement à un nouveau référendum sur l'indépendance écossaise.
Néanmoins, Yves Bertoncini, directeur de la Fondation Jacques Delors, les maux de la Grande-Bretagne sont dus, dans une certaine mesure, à l'Europe, à Bruxelles, qui veut tout centraliser depuis toujours. C'est ce qu'on peut entendre aussi.
Oui, on peut l'entendre partout, cette complainte qui n'est pas dénuée de fondement. Il y a des normes européennes, notamment des normes conjugation, qui sont des normes techniques qui ont souvent d'ailleurs été demandées par le Royaume-Uni. Pourquoi de telles normes? Pour favoriser simplement la libre circulation des produits. Donc les libéraux appellent ces normes, parce que c'est quand on normalise la taille des concombres qu'ils peuvent être vendus partout en Europe. Et accessoirement, ça permet de protéger l'entrée de concombres non européens. Je le dis au passage. Simplement, l'idée selon laquelle, pour autant, l'Union européenne gouvernerait le Royaume-Uni est une idée loufoque. Il suffit d'aller à Londres, qui a gardé sa monnaie, la livre, les Anglais ou la gauche, ils ont des spécificités qu'on leur reproche souvent, leur reproche leur dumping social, leur dumping fiscal, ça tient pas la route deux minutes. Simplement, qu'est-ce qui a fait, prospérer cette idée dans la dernière période? L'espace européen de libre circulation, parce que oui, les Britanniques, les Anglais notamment, sont plus attractifs que les Français, et donc les pays d'Europe centrale et orientale, à l'intérieur desquels des migrants ont tenté leur chance, sont plutôt allés au Royaume-Uni. Donc il y a eu un effet de l'espace européen, un sentiment de perte de contrôle. Et puis un deuxième point,
chose peut-être pas aussi simple que ça, Yves Bertoncini, c'est pas uniquement qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre, leur money back.
Oui, mais si vous parlez d'argent, justement, mon deuxième point, c'est la City de Londres. Qu'est-ce qui s'est passé au Royaume-Uni? Il y a eu, comme ailleurs, une crise financière. Ils en sont un peu plus responsables que d'autres, la City, la finance folle. Et donc, il y a eu d'abord une aigreur populaire très forte contre la City de Londres qui a été un petit peu détournée vers Bruxelles. Et Bruxelles qui a légiféré. Alors effectivement, Bruxelles, là, a pesé sur la façon dont la City de Londres pouvait agir en toute liberté. Et ça a affecté une partie des financiers qui rêvent plutôt d'un Singapour européen désormais. Et donc ça a pesé dans cette idée qu'effectivement Bruxelles vient nous embêter. Bruxelles est allé un peu embêter la City de Londres. Moi je pense que c'était plutôt utile d'aller un peu réguler la City de Londres, mais ça a créé une réaction négative, en particulier chez certains hedge funds qui ont beaucoup fait campagne pour la sortie de l'Union européenne.
Keith Dixon nous parlait de l'Écosse, de l'Irlande du Nord, d'un risque d'éclatement comme ça du Royaume-Uni. On parle aussi de la Catalogne, de tout un tas de régions. Yves Bertoncini, c'est ça aussi le risque pour l'Europe, un éclatement façon puzzle, un éparpillement?
Oui, il y a un risque, mais là encore, on est dans l'unité, dans la diversité. C'est ça l'Europe, l'unité dans la diversité sur un tout petit territoire. Une multitude d'identités nationales ou régionales. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut essayer d'articuler cette unité dans la diversité, y compris dans des pays comme le Royaume-Uni, on vient de reparler de l'Écosse et de l'Irlande du Nord, dans des pays comme l'Espagne, en France, d'une certaine manière aussi. Mais il faut regarder le monde davantage. Parce que ce qui fait l'unité des Espagnols ou ce qui peut faire l'unité des Européens, c'est de regarder le monde. C'est là qu'il y a une responsabilité éminente des leaders politiques et qu'il y a une responsabilité éminente de personnes comme Cameron ou Corbyn. Bien sûr qu'on peut ergoter sans cesse sur ce qui nous divise entre Européens ou même entre Français. Mais si on regarde un peu plus la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Nigeria, alors peut-être on se dit que dans le monde qui vient, où nous ne sommes plus si nombreux, où nous avons un sort enviable et qu'on doit évidemment conserver, protéger, améliorer, eh bien il y a un intérêt à persévérer dans cette union.
En même temps, l'Europe s'est construite pour la paix, contre la guerre, il y avait cette peur-là. Aujourd'hui, le monde fait peur et pourtant, on ne voit pas ce projet se régénérer. Il n'y a plus de père fondateur ou de mère fondatrice, il n'y a plus personne. Enfin, ce n'est pas François Hollande ou Angela Merkel même qui peuvent incarner, ou en tout cas, ils ne semblent pas le faire, incarner une idée de l'Europe et de l'avenir de l'Europe. C'est ça,
on attend les. Aussi. On a eu les pères fondateurs, François Hollande, Matteo Renzi, Angela Merkel sont allés chez Altiero Spinelli
se recueillir.
Je crois qu'on peut dire qu'on a eu les fils. C'était François Mitterrand, Helmut Kohl, Jacques Delors, Felipe González, quelques autres. On attend effectivement les petits-fils, les petites-filles. Angela Merkel est sans doute dans cette catégorie. Je dirais que ce qui se passe là, le Brexit, la perspective du Brexit, c'est un peu équivalent à la chute du mur de Berlin à l'échelle longue de l'histoire européenne. Ça va un peu forcer ces chefs d'État et de gouvernement à se hisser, je dirais, à la hauteur des événements. Vous avez parlé des peurs. Je crois que ça va aussi les inciter à revenir un peu à la source de la construction européenne. La construction européenne, elle n'a pas été lancée sur l'air de l'hymne à la joie. Évidemment, il faut la célébrer sur l'air de l'hymne à la joie, les échanges humains, Erasmus, les échanges économiques qui créent de l'emploi, de la croissance. On peut exalter l'Europe en chantant l'hymne à la joie. Mais il faut aussi la chanter. Il faut aussi chanter l'hymne à la peur, pardon. On a lancé la construction européenne parce qu'on avait peur de s'entretuer et on avait peur de Staline. Et de ce point de vue-là, dans le contexte actuel, qui est un contexte lourd de menaces à nos portes, il y a effectivement une dynamique qui normalement doit nous porter vers davantage d'union parce que l'union fait la force.
Keith Dixon, est-ce qu'on voit l'Europe aujourd'hui différemment au Royaume-Uni? On a entendu parler de cette pétition qui a recueilli des millions de signatures juste après le vote du Brexit pour peut-être organiser un autre référendum. De manière générale, est-ce que l'Europe, est maintenant que le Royaume-Uni en est libéré en quelque sorte, est vue différemment?
Je pense qu'il est trop tôt pour répondre à cette question. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous rentrons dans une période d'incertitude. Les perceptions de l'Europe vont sans doute évoluer, hein, au fur et à mesure que la Grande-Bretagne fixe ses nouvelles relations avec le reste de l'Europe. Si je peux juste ajouter peut-être un mot.
Rapidement, ouais.
Oui, il me semble qu'il y a aussi dans le rejet de l'Europe dans une partie de la population britannique un côté positif, c'est-à-dire la volonté de faire autrement, de gérer autrement l'économie, une volonté de gérer autrement, par exemple, la protection de l'emploi, la protection des salariés au sein de l'Europe. Et il me semble que cela n'a pas été assez dit
pendant les... À savoir si cette opportunité sera saisie. Merci beaucoup, Keith Dixon, professeur honoraire de civilisation anglaise à l'Université de Lyon 2, et Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors.